Fréquence Europe, l'émission européenne des radios judaïcales, est réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïca et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Alors pour cette première, j'ai le plaisir de recevoir la députée européenne, mais aussi l'ancien maire de Strasbourg, Madame Fabienne Keller. Bonjour Madame Keller.
Bonjour.
Alors, on ne vous présente plus, hein, mais on va quand même le faire un petit peu. Vous êtes donc députée européenne actuellement depuis les dernières élections de mai 2019, et vous êtes vice-présidente du parti politique Agir. Et au Parlement, vous siégez au sein du groupe Renew, qu'on appelle aussi Renaissance, qui est ce qu'on pourrait appeler le groupe centre-libéral au Parlement européen.
Tout à fait.
Donc, vous siégez dans ce groupe et vous siégez aussi dans une commission bien particulière qui s'appelle celle des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Et on verra au cours de l'émission que ces sujets sont importants et font partie de l'actualité. Et c'est bien pour ça qu'on est heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et je me souviens également que j'avais eu le plaisir de vous rencontrer il y a quelques temps pour parler du Brexit. Et j'ai regardé, en préparant cette émission, que c'était juste avant le vote, juste avant le référendum et avant le vote, et vous nous aviez donné votre éclairage, vous qui avez travaillé en tant que sénatrice sur ce sujet-là. Alors, 4 ans après ce vote et bientôt après une année après le retrait britannique de l'Union européenne, comment vous, Madame Keller, analysez-vous la situation actuelle et cette difficile négociation des relations futures entre l'Union européenne et ce proche voisin maintenant qu'il n'est plus membre ? Après tous ces 4 ans, comment vous voyez ça ?
La situation est toujours aussi difficile. Les tensions sont très fortes puisque l'accord doit être finalisé à la fin de ce mois. De nouveau une échéance avec une situation très tendue en Irlande puisque à la limite entre l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni et la République d'Irlande, en fait les accords ne sont pas applicables. On n'arrive pas à les décliner concrètement. Hein. Il y a eu un accord un peu pour permettre la sortie effective très demandée par Boris Johnson.
Un accord de dernière minute.
Absolument. Mais chacun savait, en acceptant les modalités rédigées de manière très diplomatique, que la mise en œuvre serait compliquée. Donc toujours une tension. Ça fait quand même 5, 6, 7 ans qu'on est en tension sur ce sujet du Brexit et maintenant sur sa mise en œuvre, avec un peuple irlandais qui souffre. On a une ancienne collègue parlementaire européenne qui est très engagée à Belfast, qui est ministre. Elle nous partage les immenses tensions pour une population irlandaise qui a juste envie de vivre sereinement ensemble. Et puis des relations compliquées avec l'Union européenne aussi, puisqu'on n'arrive pas à rédiger notre vie d'après le divorce.
Alors je disais en introduction que vous étiez ancien maire de Strasbourg, donc vous êtes députée européenne, et vous connaissez mieux que quiconque la bataille du siège du Parlement européen. Depuis les débuts de la crise sanitaire, le Parlement européen ne s'est plus réuni à Strasbourg, dans son siège officiel. Pourtant, les conditions sanitaires sont tout autant à risque à Bruxelles qu'à Strasbourg. On ne va pas dire qu'elles sont sans risque à Strasbourg, mais on est dans un risque similaire. Est-ce que la crise du Covid fournit un nouveau prétexte pour les anti-Strasbourg qui dénoncent depuis des années les déplacements entre les deux villes ? Comment vous voyez, vous, cette problématique ? Est-ce que c'est purement sanitaire ou il y a un prétexte ?
Ah, mais je partage votre analyse. C'est un nouveau prétexte. Alors, il est vrai qu'il y a les députés européens qui, pour Bruxelles ou Strasbourg, prennent à peu près le même risque par rapport à l'épidémie. Mais il y a aussi les fonctionnaires, les assistants qui sont basés à Bruxelles et qui, moi je l'ai découvert, hein, considèrent que le risque belge est un risque naturel pour eux. Ils ne peuvent pas l'éviter parce qu'ils vivent là-bas avec leur famille. Et que par contre, se déplacer à Strasbourg, c'est prendre un risque supplémentaire. Mais je partage complètement ce que vous dites, c'est-à-dire que voilà, c'est aussi un prétexte pour un tas de bonnes et de mauvaises raisons, un déplacement qui n'est pas souhaité. Donc pour moi, c'est un électrochoc. C'est pas nouveau. J'avais déjà vécu en tant que maire une sorte d'équilibre des forces hein, entre les trois lieux de travail, Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg. Mais il faut porter la voix de Strasbourg, cette mission d'incarner le passé, bien sûr, mais aussi de permettre une vie démocratique plus libre. Le Parlement européen, quand il siège à Strasbourg, il est tout seul. Il n'y a pas ni les fonctionnaires de la Commission, très nombreux, ni la puissance de force du Conseil, hein, les chefs d'État. Donc cela nous donne une force supplémentaire. Et puis, joint à la à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est l'autre grande assemblée démocratique européenne. Voilà, ça donne c'est la voix des peuples. À charge pour nous de le faire connaître, peut-être de créer aussi d'autres événements qui font connaître cette Europe des citoyens. Enfin, l'Europe, ça ne peut pas être qu'à Bruxelles. Le président de la République l'a dit magnifiquement. Hein. Il a dit, voilà, le jour où toutes les réunions, où tout se passe à Bruxelles, 10 ans après, l'Europe est foutue. Et je partage cette analyse.
Mais j'en venais, je disais qu'ici en Alsace, on attendait souvent, moi ça fait quelques années que je suis un peu cette actualité européenne, cette bataille du siège, on attendait souvent une action du président de la République. Là, on a Emmanuel Macron qui s'est vraiment engagé ouvertement, puisqu'il a dit, comme vous l'avez dit, qu'il ne pouvait pas y avoir qu'un seul lieu, et donc Strasbourg, qui défendait Strasbourg. Mais pourtant, malgré son engagement, la session n'a pas eu lieu. La suivante, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir ? Est-ce qu'on a un cours démocratique normal pour les prochaines sessions ? Il y a une prochaine session au mois d'octobre encore. Est-ce que les choses peuvent rentrer dans l'ordre ou pas ?
Alors, je l'espère bien sûr, mais surtout je me bats avec mes collègues députés européens français de ma délégation, d'autres aussi, comme ma collègue Anne Sander. Nous pensons que, voilà, à Strasbourg, cela a du sens. J'ai lu d'ailleurs dans un article de journal que un fonctionnaire de la Commission disait qu'il n'aime pas les trilogues. Les trilogues, c'est ces discussions pour finaliser les accords entre la Commission, le Conseil, donc qui représente les gouvernements, et le Parlement. Il disait que les fonctionnaires de la Commission n'aimaient pas beaucoup Strasbourg parce que le Parlement européen y était trop puissant. Eh bien, ça veut dire que voilà, Strasbourg a toute sa pertinence, protégée des lobbyistes, très présents à Bruxelles, de la puissance de l'administration de la Commission. Le Parlement est plus serein et peut-être plus à même, voilà, à la fois de construire les compromis, mais aussi de défendre clairement l'intérêt des peuples. Donc je crois que c'est ça, l'Europe de Strasbourg, c'est aussi Strasbourg qui incarne tout le reste de l'Europe, toutes les autres villes, tous les autres territoires qui doivent être respectés. L'Europe est immense, elle est polycentrique, hein, et quelque part, cette organisation du Parlement européen l'incarne bien.
De toute façon, comme on le dit souvent, hein, c'est garanti dans les traités. Donc on se demande des fois pourquoi on en discute tant. Alors j'aimerais faire une petite pause musicale, maintenant qu'on a parlé de Strasbourg, pour après rentrer sur vos sujets, hein, et votre travail parlementaire, en faisant une petite pause musicale, en écoutant un compositeur-chanteur italien. Je vous propose d'écouter ça tout de suite.
Vivi per me, sì, però io non vivo più. È la nostra fine, è la nostra fine, è la nostra fine, questa è la nostra fine. Cos'è successo? Sai, la vita sceglie per noi, possiamo parlarne se vuoi, sì, ma la notte è giunta per noi, è la nostra fine, è la nostra fine, è la nostra fine. La nostra fine.
On écoutait André Laszlo de Simone et La Nostra Fine. Alors, c'est un chanteur turinois pour ceux qui sont curieux. Donc, on reste en Europe. Alors, Madame Keller, reprenons un peu ce cours de cette interview. On va partir un peu de cette problématique du Parlement qui n'est pas finie et qu'on va continuer à suivre. Mais pour aller cette fois-ci sur vos activités, alors la vie démocratique a continué, elle suit son cours. Le 23 septembre, la Commission européenne a proposé un texte réformant la politique migratoire de l'Union et notamment le système, en partie le système Dublin, celui qui régit les demandes d'asile, en disant que c'est le premier pays mis en cause qui doit traiter cette demande d'asile. Que pouvez-vous nous dire de ce pacte ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette proposition, puisqu'on est au stade de la proposition et qu'elle va maintenant être débattue au Parlement européen ?
Alors, cette proposition est une bonne base pour travailler. Elle a quelques défauts, mais il faut négocier. Maintenant, la discussion s'ouvre. J'ai envie de dire surtout, il était temps. Depuis la crise migratoire de 2015, donc la guerre en Syrie qui a amené beaucoup de personnes à prendre la route pour essayer de se protéger, et donc plus d'un million et demi de personnes sont arrivées en Europe, on n'avait pas réformé notre système qui avait montré qu'il n'avait pas su tenir le choc, être adapté à cette situation de crise. Pire encore, il y a 15 jours, un camp de réfugiés qu'on a organisé à cette occasion, donc le camp de Moria, qui est occupé à trois fois la population prévue.
Qui est le plus grand camp en Europe.
Qui est actuellement le plus grand camp. Mmh. Donc 12 000 personnes, alors qu'il y en avait 4 000 places organisées, qui prend feu. Mais au fond, ça devait arriver, parce que ce surpeuplement, des conditions indignes, un camp dans lequel séjournent des familles, parfois depuis plus d'un an, c'est pas digne de l'Europe. C'est pas possible de gérer les personnes qui recherchent de la protection de cette manière-là, totalement inhumaine. Donc, il est temps de revoir les règles, d'être réaliste, de regarder les choses en face. En fait, la migration annuelle actuellement est particulièrement faible en nombre de personnes qui sollicitent l'asile. Et pourtant, le sujet est comme inflammable, dès qu'on l'évoque. Les populistes s'en mêlent et cela auto-bloque les discussions. Mais c'est la dignité d'un peuple de protéger ses frontières, d'en fixer les règles, et puis ensuite d'être en capacité de les mettre en œuvre. Et dans ces questions d'asile et de migration, la question c'est beaucoup la réalité, comment on accueille les personnes qui souhaitent demander l'asile, comment leurs dossiers sont pris en compte et comment, s'ils ne peuvent pas être accueillis, ils sont humainement reconduits dans leur pays d'origine.
Alors beaucoup critiquent aussi ce pacte en disant qu'il est encore plus contraignant, qu'il fait de l'Europe une plus grande forteresse. Il y a des pays dans l'Union européenne qui sont opposés à ce qu'on appelle la solidarité, à prendre en charge certains flux migratoires. On pense à la Pologne, à la Hongrie, mais est-ce qu'on pourrait dire les pays de Visegrad, la République tchèque ou la Slovaquie? Est-ce que vous pensez qu'il a des chances d'être adopté, ce pacte, sachant que cette fois-ci, il permet l'accueil, mais en demandant cette fois-ci des contreparties aux pays qui n'accepteraient pas de partager la charge?
Alors, je pense qu'il a été bien travaillé par les commissaires en charge, notamment Ylva Johansson, la Suédoise, qui a fait plusieurs fois des rencontres avec les autorités nationales. Comme vous le soulignez, le groupe de Visegrad ne souhaite pas accueillir des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, d'ailleurs, ne souhaitent pas non plus aller dans ces pays parce qu'ils n'ont aucune chance d'être protégés, d'avoir le statut de réfugiés. Et donc, de manière un peu décevante par rapport à l'idéal européen où la solidarité s'applique pleinement, mais de manière pragmatique, le dispositif prévu par la Commission prévoit une solidarité en cas de crise entre les États membres, mais une exception pour ceux qui le souhaitent. A priori, effectivement, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaque en useront, et implication dans d'autres modalités, notamment des modalités d'organisation des retours. Mais cela s'appuie sur un principe qui est important, c'est la solidarité. L'idée, c'est de ne pas laisser la Grèce, l'Italie, l'Espagne, qui sont des pays de première entrée des migrants, seuls face à ces afflux, seuls face aux bateaux, qu'il faut laisser accoster. Enfin, je défends vraiment l'idée de mettre en œuvre un recours en mer, un sauvetage à l'échelle européenne, que ce soit financé par des fonds européens, parce que ça aussi, laisser mourir des gens sur des canaux de fortune, c'est pas possible pour ce à quoi nous sommes attachés, la vie humaine avant tout, la protection de l'autre. Mais il faut qu'il y ait une solidarité qui s'applique entre les États membres, de manière à ce qu'il n'y ait pas un poids excessif sur l'Italie, sur l'Espagne ou sur la France.
Et après, on a cette question des demandeurs d'asile qui pourraient être renvoyés chez eux, mais il y a quand même un problème qui se pose aujourd'hui. On n'a toujours pas une liste des pays dont l'origine est sûre pour pouvoir dire, ben voilà, on peut renvoyer dans ce pays parce que ce sont des pays sûrs, pas dangereux pour les personnes que l'on renvoierait. Comment ça se fait que dans ce pacte, on n'a toujours pas cette liste des pays sûrs, finalement ?
Alors pour moi, c'est en effet étonnant qu'on ne soit pas mieux coordonné sur ces sujets, mais c'est lié à cette politique elle-même. On est très heureux d'avoir la zone Schengen. On circule librement, les personnes, les biens, les marchandises, les services. Mais la mise en œuvre des politiques d'asile et de migration, s'il y a des règlements européens, elle est totalement nationale. Et on est face au ministère de l'Intérieur des 27, même des ministères de l'Intérieur des Landes en Allemagne et des provinces en Espagne. Et là, on est dans l'action souveraine par essence, dans le régalien pur, où chaque service national n'a pas du tout l'habitude de s'ajuster aux autres États membres. On l'a malheureusement vécu pour le Covid, hein, où les règles aux frontières étaient appliquées de manière strictement nationale. Donc il y a un énorme travail à faire de convergence. Et la future agence de l'asile et de la migration, qui est déjà esquissée, hein, il y a déjà un embryon d'administration, fait un travail formidable où il met effectivement autour de la table les États membres, les spécialistes et par exemple sur les pays tiers, évalue le risque pays pour voir si oui ou non il est raisonnable de proposer aux demandeurs d'asile non acceptés de retourner dans leur pays parce qu'on considère que les conditions de sécurité sont réunies. Aujourd'hui, ce travail est fait, mais pas suffisamment. C'est toute la question de l'intégration européenne progressive, hein, thème par thème. Et ce n'est qu'un travail de fond qui pourra convaincre chaque État que l'analyse partagée est la bonne.
Alors restons sur la Pologne et la Hongrie. Là, on vient d'en parler en partie pour les questions migratoires, mais on en parle aussi pour les questions de l'État de droit. Et donc, parce que maintenant, on contrôle aussi si les pays de l'Union européenne respectent les règles, les droits fondamentaux de leurs citoyens. Alors, ces deux pays font bloc contre un instrument qui est en train de se mettre en place, qui prévoit notamment de conditionner l'accès à des fonds européens, donc sachant que la Pologne et la Hongrie en bénéficient beaucoup, hein, mais qui donc conditionne cet accès à ces fonds européens au respect ou non de l'État de droit. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cet instrument ? Pouvez-vous nous l'expliquer un petit peu ? Et ensuite aussi nous dire, mais là, comment on va faire ? Est-ce qu'on va finalement avoir un blocage des Polonais et des Hongrois encore sur ce thème aussi ?
Alors, le respect de l'État de droit, c'est-à-dire des choses assez simples comme la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, qui n'est pas soumise au gouvernement, ne sont pas respectés en Pologne. Des juges ont été limogés. Certains sont mis sous contrôle de la part de l'État et la liberté de la presse aujourd'hui n'est pas du tout assurée en Hongrie. Ce sont des faits établis. Donc ces conditions qui étaient des exigences au moment de l'entrée dans l'Union européenne, se sont dégradées récemment et donc nous conduisent à réfléchir à comment l'Europe peut continuer à avancer alors que certains pays ne respectent plus ces règles, j'ai envie de dire, de base.
Ce socle commun.
Voilà, tout à fait, ce socle commun. Le 23 juillet dernier, lors du sommet des chefs d'État, le principe d'une conditionnalité pour le plan de relance, ce formidable plan de relance qui doit nous aider à nous en sortir ensemble, de cette terrible crise économique, crise sociale, on mettra une condition, on ne servira pas tout à fait les pays qui ne respectent pas l'État de droit comme les autres. Alors il y a la menace budgétaire, on ne va pas payer, mais il y a une menace plus subtile, et c'est celle que je défends, qui serait de confier à nouveau à la Commission européenne la gestion des fonds, et non plus à ses États, comme ils ne respectent pas les règles fondamentales, pour que par contre les villes, les entreprises, les associations, les ONG puissent être financées, pour ne pas pénaliser les peuples, mais par contre bien identifier le fait que l'État n'est plus un État aux normes européennes qui respectent les principes d'un État qui fonctionne bien.
Oui, dans des pays où pourrait y avoir aussi de la corruption, ça permet aussi de cette manière-là de le contrôler.
Absolument. C'est d'ailleurs la gestion directe des fonds par la Commission européenne, donc à l'échelle de l'Union. C'est le dispositif qui existe pendant la phase d'adhésion, c'est-à-dire justement quand les États membres sont en train de mettre au point leurs institutions, le fonctionnement de leur Parlement, de leur ministère régalien, de manière à assurer ses principes fondamentaux. Donc il n'y a rien de choquant, on ne respecte plus les règles, on revient à la situation antérieure, mais ça a le mérite de la simplicité. Ce dispositif est en discussion parce que s'ils l'ont adopté le 23 juillet dernier, Polonais et Hongrois aujourd'hui, évidemment, essayent de lutter contre les modalités d'application.
Alors, je vous propose de conclure ou pré-conclure cette émission avec la rubrique Catch the Eye.
Je vais passer la parole dans le cadre de Catch the Eye.
Catch the Eye.
Catch the Eye.
We now move to Catch the Eye.
Catch the Eye.
Alors, question courte, réponse courte, on est un peu dans la procédure du Parlement. Quelle est pour vous la plus grande réussite de l'Union européenne ?
C'est la gestion de la jeunesse, les programmes Erasmus, les programmes culturels, tout ce qui nous permet de construire l'avenir ensemble.
Et le plus grand échec, s'il y a ?
Il n'y a pas d'échec, il y a plein de sujets de travail, celui qu'on vient d'évoquer assez longuement, l'asile, la migration. Il y en a un autre pour lequel je continue à dire les choses directement, c'est la fiscalité, la concurrence fiscale. Je trouve que c'est quelque chose qui détricote l'Europe parce que ça crée un intérêt national, des sujets de travail, pas de renoncement.
Et quelle est votre langue préférée, hormis le français ?
Alors, j'allais dire le chinois parce que je ne le comprends pas et je trouve que l'écriture en est superbe. C'est une très belle écriture. J'aime bien l'anglais parce que ça nous permet de communiquer avec tout le monde, mais c'est ce que beaucoup appellent le globish. C'est plus trop une langue. Sinon, spontanément, ce serait l'italien. C'est trop beau.
Et quel est votre plat préféré ? Vous qui circulez maintenant souvent dans toute l'Europe, vous avez un plat préféré ? Un plat
Alors malheureusement, préféré. Je circule beaucoup à Bruxelles où le plat préféré, c'est le sandwich. ou sinon, c'est les frites avec les moules. Mon plat préféré, c'est une bonne salade pour mon régime.
Et j'aimerais terminer, si vous avez un conseil lecture, conseil musique. Alors Expo, en ce moment, il y en a moins. Mais si vous aviez quelque chose à conseiller à nos auditeurs.
Alors, il y a une très belle expo que je n'ai pas encore vue, mais j'en ai beaucoup entendu parler au Musée d'art contemporain de Strasbourg, qui est le regard d'un collectionneur sur les peintres du 19e. Sinon, moi, j'aime bien aller au Musée de l'œuvre Notre-Dame. J'y vais de temps en temps, un temps assez court, mais je trouve ça magique qu'ils aient déjà pensé à faire de belles choses comme ça au Moyen-Âge. Enfin, voilà, c'est 1000 ans de sculpture qui nous regardent, 1000 ans de Strasbourgeois attachés à leur cathédrale.
Et je terminerai pour revenir sur le côté européen. Quel premier bilan tirez-vous de cette première année en tant que député européen ? Vous qui avez eu d'autres fonctions, comment vous jugez celle-ci ? Comment vous l'appréciez ?
Alors, pour moi, ça a été une année de découverte de mes collègues. Ça, c'est la très, très belle partie. Discuter avec des Roumains, des Néerlandais, des Espagnols, des Grecs, partager un peu ce qu'ils vivent. Hein. J'essaie de comprendre chaque fois d'où ils parlent, quelles sont les préoccupations là où ils exercent, dans leur ville, dans leur commune. Le petit moins, c'est l'incroyable complexité du processus d'élaboration. Et la magie, c'est la tour de Babel. On parle dans 24 langues et on se comprend tous. C'est génial.
Merci, Madame Keller, pour nous avoir consacré un peu de votre temps et pour être venue dans nos studios pour cette émission. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.